Les séminaires du Collège de France.
Bonjour à tous et à toutes, je suis très content d'être là aujourd'hui pour discuter hydrogène. Merci beaucoup Marc, c'est un grand plaisir. Vous allez voir en fait que je travaille sur l'hydrogène comme Marc, mais dans des directions différentes. Donc il y a des endroits où on va s'intersecter, vous allez voir, puis il y a des endroits où ce sera un petit peu différent. D'abord, ce que je veux dire, moi, c'est j'ai une perspective un petit peu différente de Marc. Moi, mon sujet, c'est la combustion. Et je voudrais élargir un petit peu le focus aujourd'hui. En France, quand on parle d'énergie, on entend beaucoup parler de nucléaire, on entend beaucoup parler d'éolien, de solaire, de tout ça. La vérité est un petit peu différente, hein, c'est que l'énergie sur Terre, pour l'instant, c'est la combustion. D'accord ? Donc, je ne dis pas ça pour ma chapelle, mais c'est la réalité. Hein. En fait, aujourd'hui, quand vous regardez toutes les énergies, pas que l'électricité, hein, toutes les énergies, 9 fois sur 10, c'est fait avec de la combustion. Alors ça peut être en brûlant du bois pour se faire un barbecue ou pour se chauffer, ou pour brûler l'hydrogène et de l'oxygène pour aller sur Mars, mais dans tous les cas c'est de la combustion. Donc le domaine de l'énergie aujourd'hui, il est dominé par le fait de brûler quelque chose. Il est tellement dominé par ça d'ailleurs qu'en moyenne et par personne sur Terre, on brûle tous à peu près 2 litres de pétrole tous les jours. Hein. Alors quand je dis 2 litres, hein, c'est 20 litres. Pour les Américains, 0,01 pour les Africains, mais la moyenne, c'est 2. Quand on regarde d'ailleurs la combustion, hein, le total de la combustion que vous voyez là, c'est donc à peu près 90%. Les 90% ne sont pas faits qu'en brûlant des combustibles fossiles, hein. Je vais y arriver. Il y a aussi du renouvelable. Par exemple, quand vous faites du bio, ben, en général, à un moment donné, vous le brûlez. Au final, c'est à peu près dans 91%. Et ce chiffre-là descend très, très doucement, malheureusement. Alors, pourquoi est-ce qu'on brûle des choses pour faire de l'énergie? Ben, c'est assez simple. Hein, c'est que la quantité d'énergie qu'on peut retirer, le bénéfice hein, en termes d'énergie, qu'on peut retirer de la combustion est énorme. Vous prenez 1 kg d'essence ou de kérosène, vous avez dedans une énergie absolument faramineuse. Comparé par exemple aux batteries, ce que les gens ont en tête, hein, 1 kg de kérosène que vous emmenez avec vous, vous pouvez tirer à peu près la même énergie que 40 ou 50 kg des batteries des plus sophistiquées. Si vous emmenez 1 kg d'hydrogène, ça correspond à peu près à 100 kg de batterie. Donc évidemment, brûler quelque chose, aujourd'hui, c'est pour ça qu'on l'a partout, c'est la façon la plus efficace de récupérer l'énergie et de loin. Et la deuxième équation que je vais vous montrer, je n'en montrerai pas beaucoup des équations aujourd'hui, c'est qu'en fait, bah, ce n'est pas en train de changer. C'est-à-dire que l'énergie, c'est de la combustion aujourd'hui et ce sera encore de la combustion demain. Alors pourquoi ? Bon, il y a plein de scénarios, hein, c'est les scénarios énergétiques, il y en a autant qu'on en veut, mais en gros, ils ressemblent tous à ça quand même. Si vous regardez ici l'énergie qu'on produisait en 2010 et puis ce qu'on compte faire en 2035, c'est pas qu'on va pas faire beaucoup de renouvelables en plus, on va en faire énormément en plus, on va peut-être même faire du nucléaire en plus, mais la vérité, c'est que comme la demande globale, mondiale, des Indiens, des Chinois, des Africains monte, même si nous on baisse, ça sert à rien, enfin on peut baisser, mais pour satisfaire la demande mondiale, ben, on va brûler plus de pétrole, plus de charbon, plus de gaz, ce qui est évidemment une catastrophe, parce qu'en fait ça c'est une image que certains de mes étudiants ont récupérée, c'est une bonne analogie sur la façon dont le monde est drogué aujourd'hui au pétrole, d'accord ? Et comme toutes les drogues, vous savez, c'est bien au début, mais après ça a des conséquences, et les conséquences, je ne vais pas parler dessus, hein, vous les connaissez très bien, en gros il faut arrêter. D'accord. Le laboratoire où je travaille, moi, il est coupé en deux. Il y a une moitié qui fait la combustion, l'autre qui fait du changement global du climat. Et je peux vous dire que les réunions sont intéressantes parce qu'en gros, quand on fait des réunions, ils nous disent qu'il faut juste qu'on arrête la combustion. Voilà. Après, arrêter, ils viennent en voiture, donc arrêter n'est pas facile. Donc, on est tous convaincus qu'il faut aller vers des énergies renouvelables. La façon de le faire exactement avec ou sans nucléaire, je pense qu'on est tous convaincus aujourd'hui que ben, sans nucléaire, ça passe juste pas. Donc il faut peut-être rajouter aussi du nucléaire. Et un des problèmes, bien sûr, Marc l'a déjà dit, c'est que ces énergies renouvelables sont intermittentes et que c'est vraiment pas facile à gérer des trucs intermittents et que donc le stockage d'énergie devient un problème à lui tout seul. Alors, comment est-ce qu'on stocke l'énergie? Alors là, c'est un problème plus compliqué. Ce qui est amusant, c'est que, ben, à nouveau avec la combustion. Alors comment? Ben, Marc vient d'en parler. Toutes ces stratégies power to x to power fonctionnent comme ça. On utilise des énergies renouvelables et on s'en sert pour faire du gaz, par exemple de l'hydrogène, c'est quand même le plus classique. Et puis après, on réutilise l'hydrogène quand on en a besoin. Je vais vous montrer un exemple de ça. Alors le problème, évidemment, Marc l'a dit, c'est que l'efficacité globale de ce truc est très très faible. Donc, d'un point de vue énergétique, c'est un gros gâchis. Mais il ne faut pas oublier non plus que, de toute façon, l'énergie qu'on a à la base, qu'on appelle fatale, vous savez, c'est le jour où il y a trop de soleil et trop de vent. L'Allemagne a eu ce problème plusieurs fois. Vous ne savez pas quoi en faire, de toute façon. Donc, en fait, multiplier un petit rendement par une énergie gratuite, ou pire, par une énergie qui vous encombre parce que vous ne savez pas quoi en faire, ça peut être utile. Et puis, bien sûr, c'est très utile pour équilibrer donc, les réseaux électriques, hein, être capable de stocker l'énergie. Alors, comment est-ce qu'on fait ? Bah, c'est assez facile. Donc, on fait l'électrolyse grâce à l'électricité renouvelable de l'eau. On fait de l'hydrogène. L'oxygène, pour l'instant, on a tendance un peu à pas s'en servir. Puis cet hydrogène, quand vous en avez besoin, bah, vous le brûlez dans un foyer, dans une turbine à gaz, etc. Et c'est, les quantités que vous pouvez récupérer en faisant ça d'énergie ou de chaleur sont énormes. Alors, une fois qu'on a de l'hydrogène, on peut en faire plein de choses. Hein. Si vous avez de l'hydrogène quelque part dans des grands containers, sous pression, on va en revenir là-dessus tout à l'heure, ben vous pouvez le brûler, par exemple, dans une voiture. Vous savez, vous habitez à Paris, ici, vous avez des, peut-être pas des milliers, mais des centaines de voitures qui circulent dans vos rues à l'hydrogène. Hein. Les taxis en particulier. Hein. Hype, Aceco ont déjà 500, 600, 800 taxis hydrogène qui roulent dans les rues de Paris. Après, vous pouvez le convertir pour en faire du méthane ou de l'ammoniac. Pour le stocker, c'est quand même plus facile. Et bien, vous pouvez aussi le brûler. Donc, par exemple, vous pouvez le brûler dans des moteurs à piston pour des gros transports, les camions, les bus. Vous pouvez le brûler, et on va en parler tout à l'heure, pour le transport aérien, mais aussi pour faire de l'électricité dans une turbine à gaz. Vous pouvez le brûler dans des foyers. Et en particulier dans l'industrie lourde, qu'on a vu tout à l'heure, hein, quand Marc vous a indiqué non, et c'est vrai que tout à l'heure, pour l'industrie lourde, il y a plein de processus où ce n'est pas avec un radiateur électrique que vous allez vous en sortir. S'il faut atteindre 2000, 2500 degrés, il n'y a qu'une seule façon d'y aller, c'est avec des flammes. Et donc du coup, si on ne veut pas y aller avec des flammes dans lesquelles il y a du C, parce qu'on ne veut pas faire du CO2, la seule façon, c'est l'hydrogène. Donc en effet, la slide qu'il a montrée, je pense, est révélatrice. C'est à un moment donné, si on veut décarboner l'industrie lourde, là, on est obligé d'y mettre de l'hydrogène. Et puis, on travaille, nous, par exemple, Toulouse aussi, sur des gens qui font des barbecues à l'hydrogène. Les premiers clients étant les Américains. L'Américain typique rentrant chez lui avec son SUV de 6 litres, 8 cylindres, à l'essence. Et, mais par contre, il a un barbecue qui vert. Alors, vous noterez que l'hydrogène, dans cette affaire, n'est que le premier gaz que vous pouvez produire à partir d'électrolyse. Après, vous pouvez en faire plein de choses. Les stocker, tout, enfin, il y a plein de stratégies là. Moi, je vais me concentrer sur l'utilisation directe de l'hydrogène. On a l'hydrogène, on le prend. On le brûle. Alors, juste cette planche, en fait, Marc aussi l'a montré, je la montre juste autrement. Un des gros atouts des gaz, en général, de stocker l'énergie dans les gaz, c'est que si vous mettez en échelle log ici ce que vous pouvez stocker et le temps pendant lequel vous pouvez le stocker, si vous avez une batterie dans votre voiture, vous n'avez qu'à voir, laissez-la une année toute seule, revenez au bout d'une année, regardez combien il y a d'énergie encore dans la voiture, dans la batterie. Vous allez voir, ça ne le fait pas. Alors que, bon, l'hydrogène, les bouteilles de gaz, par exemple, vous en avez tous, vous les gardez des années, vous les rouvrez, ben, il y a toujours du gaz dedans. Donc en fait, ici, vous voyez que les quantités d'électricité qu'on peut stocker, d'énergie qu'on peut stocker, ça c'est la Tesla, c'est la méga factory de Tesla, la plus grosse qui est là, vous voyez qu'en fait, elle est plusieurs ordres de grandeur plus petite en quantité d'énergie qu'on peut stocker et en temps pendant lesquels on peut conserver l'énergie. Donc si vous voulez garder l'énergie pendant un an en quantité faramineuse, cette méthode-là peut le faire, à condition d'être capable de faire l'hydrogène. Vous avez noté qu'il y avait un petit détail. Alors, tout le monde est évidemment à fond là-dessus. Vous savez qu'il y a des trains qui marchent à l'hydrogène, on a parlé des voitures, il y a beaucoup d'endroits où les gens font beaucoup de recherches. Il y a un hype très fort, comme on dit, sur l'hydrogène en ce moment. Toulouse, par exemple, a démarré en 2019 une plateforme aussi pour étudier les électrolyseurs, les piles à combustible. L'industrie est à fond là-dessus. Et Toulouse démarre en 2024 une infrastructure à 50 millions d'euros pour étudier l'hydrogène. Donc en fait, il y en a. Alors la question, c'est est-ce qu'il est vert ? Alors bon, ça on a déjà parlé, ça dépend ce que vous appelez vert. Quand il y aura l'hydrogène qui sortira du sol, c'est un gros sujet actuellement. Vous avez vu dans la presse, tout le monde dit qu'il y a des gisements d'hydrogène en Alsace ou en Lorraine. Comme si l'hydrogène jaillissait du sol, alors c'est un petit peu plus compliqué que ça, et surtout on ne pense pas qu'il y en aura des quantités faramineuses. On peut faire l'hydrogène, bien sûr, en faisant du power to gas, il faut l'électricité, vous avez vu combien il faut, la moitié de la production française d'électricité pour faire ça. Je vais juste faire une remarque, en fait, que Marc n'a peut-être pas mentionné, c'est que, comme d'habitude, les USA, avec leur douceur habituelle, ont trouvé une méthode beaucoup plus radicale, hein, qui est d'utiliser toute l'infrastructure lourde de l'industrie pétrolière américaine pour faire de l'hydrogène à partir du méthane, Ça, c'est un tout petit détail, ça fait plein de CO2, mais qu'est-ce que vous faites? Vous faites du CO2 capture sur place, c'est-à-dire que vous produisez de l'hydrogène à partir du gaz, ils en ont, et le CO2, vous dites que vous allez le capturer. Toute la question, c'est que les gens doutent du fait que ce soit faisable. Mais il n'empêche que l'investissement actuellement aux États-Unis sur ce sujet-là, au niveau recherche, on parle de centaines de millions d'euros, et ils sont en train de créer une dizaine de ce qu'ils appellent des hubs à l'hydrogène, qui sont en fait basés sur l'industrie pétrolière américaine, hein, et du gaz, qui vont donc, au lieu de sortir du méthane, vont sortir de l'hydrogène en disant bon, « le CO2, vous en occupez pas, on l'a capté ». Pour vérifier s'ils l'ont capté, ce sera une autre affaire. Mais... donc ça, c'est une autre façon de dire qu'il va y avoir de l'hydrogène. Les Américains parlent de remplacer la moitié de la consommation des voitures américaines par de l'hydrogène. Bon, pourquoi pas. Alors, supposons qu'il y en ait. On a deux questions, évidemment. C'est est-ce qu'on va pouvoir l'appliquer et pour quelles applications? On pourrait l'appliquer partout. La question, c'est où est-ce que c'est raisonnable? Si on veut appliquer l'hydrogène partout, par exemple, si vous prenez le réseau de méthane de Paris qui sert à faire votre café le matin, vous ne pouvez pas, en tant que combustionniste, je vous le déconseille, dire que vous branchez l'hydrogène le matin à la place du méthane. Ça ne va pas le faire. Vous pouvez en mettre un petit peu, jusqu'à 10-15% peut-être. Après, il faudra changer toutes les chaudières à gaz de toute la ville. Donc, c'est ce qu'on appelle rétrofiter. L'endroit qui est le plus intéressant pour des combustionnistes, c'est d'aller au maximum de ce qu'il y a de plus difficile là-dedans, c'est d'utiliser donc l'hydrogène pour le transport. Et parmi tous les transports, comme je suis toulousain, moi, évidemment, le pire, c'est l'avion. Si vous arrivez à faire un avion à l'hydrogène, vous saurez tout faire. Vous allez voir que la conclusion, c'est probablement pas celle-là. Mais bon. Donc, il faut déjà dire qu'aujourd'hui, il y a déjà de l'hydrogène pour faire l'électricité. Vous allez au Japon, l'Europe fait ça aussi, hein, on est capable de faire marcher certaines turbines qui font l'électricité, hein, c'est des monstres, hein, c'est des trucs qui font la même puissance qu'une centrale atomique française. Hein. Une de ces turbines-là fait 300-400 MW sans trop se fatiguer, et elles peuvent marcher 100% d'hydrogène. Mais il faut bien noter que ça, c'est des turbines, elles ne décollent pas, hein, elles font 35 mètres de long, hein, je ne sais pas combien de centaines de tonnes. Donc en fait, il n'y a pas de limite au poids qu'on met là-dedans, il n'y a pas de limite en particulier à tous les systèmes de sécurité que vous pouvez y installer. Vous rajoutez 3 tonnes de capteurs, de systèmes de sécurité, personne ne vous dira rien. Dans un avion, ça ne va pas être pareil. Ce qui fait qu'il y a une grosse polémique dans ma communauté, hein, qui est, est-ce qu'on va réussir à décarboner les avions à l'hydrogène? Alors avec des SAF, on sait qu'on peut, mais à l'hydrogène, c'est une grosse question. Alors, il y a beaucoup de façons d'expliquer les problèmes de l'hydrogène, mais il y en a une bonne que je vais vous montrer maintenant, qui est d'imaginer à quoi ressemblerait un avion à l'hydrogène, à long courrier. Il aurait probablement une tête comme ça. Parce que le problème de l'hydrogène, c'est que ça prend de la place. La densité est très faible, et donc un avion à hydrogène, il aurait probablement un dos de ce type pour arriver à emmener le volume d'hydrogène nécessaire pour le faire fonctionner. Donc du coup, on tombe tout de suite sur une grosse question avec l'hydrogène, qui est comment on le transporte. Il y a deux façons de transporter l'hydrogène, soit cryogénique, soit sous haute pression. Alors ça a l'air d'être un détail, quand on vient de l'essence ou du kérosène, on est habitué à prendre un bidon, et puis vous mettez 10 litres d'essence dedans, et puis vous avez 7 kilos, et c'est facile. Vous pouvez le... Non, avec l'hydrogène, c'est pas ça. Alors avec l'hydrogène, vous avez donc deux solutions. Si vous voulez qu'il soit liquide, il suffit de le refroidir. À moins 253 degrés. Bon, ça fait un sacré congélateur. Hein. Mais même quand il est liquide, il ne fait que 70 kg par mètre cube, alors que le kérosène liquide lui fait 800 par mètre cube. Donc en fait, si vous preniez l'exemple d'un 330 ou d'un 340, hein, qui aujourd'hui emmène 220 mètres cubes de kérosène, en fait, il faut emmener 1100 mètres cubes d'hydrogène, si vous l'emmenez liquide. Donc vous imaginez ce que c'est 1100 mètres cubes, c'est 10 mètres par 10 mètres par 10 mètres à 20 Kelvin. Ça va être un petit peu, ça va être compliqué. Donc on peut se dire, il n'y a qu'à le prendre sous pression. C'est ce qu'on fait dans les voitures. Dans une voiture, le réservoir qui est là, c'est un réservoir sous pression qui est à 700 bars, 700 fois la pression atmosphérique. Alors, je parle d'entre vous, vous avez déjà une fuite d'eau chez vous. Quand vous avez une fuite d'eau, l'eau qui sort, elle est à quelques bars, 5 bars. Imaginez si c'était à 700. Donc les réservoirs sont à 700 bars et les centrales qui permettent de faire le plein des réservoirs sont à 900 bars à peu près. Le problème, du coup, c'est que pour tenir une pression comme ça, il faut des réservoirs très, très, très lourds, très solides. Donc, typiquement, dans la Toyota Mirai, là, celle qui roule dans vos rues, là, vous pouvez rentrer dans un Hype chez vous aujourd'hui, si vous voulez, avec l'hydrogène. Ben, en fait, il y a 5 kg à peu près d'hydrogène dans le réservoir, et le réservoir pèse 130 kg. D'accord. Donc, vous imaginez, dans un avion, les tonnes qu'il faut emmener, ça ne va pas le faire. Donc, en fait, il n'y a pas de solution. Il faudra que ce soit cryogénique. Donc, il y a actuellement 400, 500 ingénieurs à Toulouse, hein, qui travaillent sur l'avion à hydrogène, et la seule stratégie qu'on sait envisager, c'est de transporter l'hydrogène cryo. Après, une fois qu'on a fait l'hydrogène cryo et qu'on suppose qu'on en a, il faut changer les moteurs. Alors changer les moteurs, pour les combustionnistes, nous on est contents parce que ça nous fait du travail, mais c'est pas une mince affaire. Donc par exemple, ça c'est un concept de moteur qui est développé à Cranfield. En fait, on va passer, ça c'est une chambre de combustion dans l'avion que vous utilisez tous les jours, hein. On injecte du kérosène ici avec de l'air, ça se mélange. Mais en fait, il va falloir passer un système très différent où on va injecter l'hydrogène par plein de petits injecteurs ici. Donc en gros, il faut jeter le moteur, en faire un autre. Je vais résumer les choses. Et aujourd'hui, on ne sait pas faire. Il y a une grosse compétition en Europe. On ne sait pas exactement comment on va faire ça. À tel point qu'il y a des gens qui disent mais il n'y a qu'à carrément changer de méthode. On va faire de la combustion, par exemple, dans des poreux. Un des problèmes de l'hydrogène, c'est que ça brûle, vous allez voir tout à l'heure, pas de façon très facile. Donc il y a des gens qui disent bon, on pourrait mettre les flammes à l'intérieur de milieux poreux. Vous avez une image ici qu'on fait dans mon labo. Vous voyez une flamme. Elle ne brûle pas dans l'air, elle brûle à l'intérieur d'un solide. Et ça permet de garder la flamme là où on veut. Il y a d'autres concepts aussi pour les moteurs qui sont encore plus radicaux, comme celui-là. Là, vous voyez ce qu'on appelle un moteur à détonation tournante. Ce que vous voyez là, c'est une détonation. Je vais vous expliquer tout à l'heure le détail de ça, mais juste pour l'instant, retenir que c'est quelque chose qui se propage à peu près à 2 km par seconde, qu'on ferait tourner à l'intérieur des moteurs et qui serait capable de brûler de l'hydrogène. Donc le monde de la combustion est en effervescence pour l'instant là-dessus, parce que les moteurs doivent être changés. On ne pourra pas fonctionner avec des moteurs normaux sur des avions si on veut brûler de l'hydrogène. Alors, supposons donc maintenant qu'on puisse construire un avion avec des moteurs qui brûlent de l'hydrogène et qu'on soit capable de le stocker et de faire le plein des réservoirs à 20 degrés Kelvin. Il faut bien comprendre que ça veut dire aussi qu'il faut les vider le soir. Hein. Vous ne pouvez pas laisser, si vous allez à New York, qu'il reste de l'hydrogène liquide dans le carburant, il faut l'enlever pour la nuit et l'en remettre le lendemain matin. Si vous le laissez dans l'avion pendant la nuit, il va s'évaporer, je vais vous montrer tout à l'heure, ça va poser d'autres problèmes. C'est très très différent du kérosène et de l'essence. Je veux à nouveau faire une remarque là-dessus, les kérosènes et l'essence sont des carburants absolument incroyables, de facilité, de puissance, de souplesse, pour le diffuser dans le monde entier. La société s'est habituée à ça depuis 200 ans, c'est pas pour rien. C'est que pour remplacer ces choses-là, c'est très 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 compliqué, et ça va pas être facile. Donc du coup, là, je suis obligé de commencer à discuter donc safety. Pourquoi parler de safety? Ben, vous allez voir, c'est le problème de sécurité lié à la combustion. Je ne parle pas d'autres problèmes de sécurité, juste la sécurité liée à la combustion. On va devoir transporter de l'hydrogène, on va devoir le transférer entre des camions et par exemple des avions, ou même des voitures. S'il y a des fuites, qu'est-ce qui se passe? Et s'il y a des accidents, qu'est-ce qu'on fait? Alors là, je vais juste faire un tout petit peu d'histoire. C'est important de livre là, de Christian Bayeux, qui est un Français qui a fait une rétrospective de l'hydrogène. Depuis qu'on parle d'hydrogène, en fait, vous allez voir, la sécurité était vraiment pas loin. L'origine, en fait, le moment où on a commencé à en parler beaucoup, c'est quand on avait des ballons, parce que l'hydrogène, non seulement il brûle, mais il est léger. Donc si vous voulez faire un ballon, c'est très pratique. Donc en fait, à l'époque, ils ne savaient pas trop ce qu'ils faisaient, ils ne savaient pas si c'était de l'hydrogène, ils l'appelaient Hydro pour Water, Hydrogen for Generated. En fait, ils s'en servaient surtout parce qu'ils ont vu que ça permettait de faire des ballons. Alors comment on fait un ballon à l'hydrogène? Ben, bon, il faut mettre des gants. Hein. On fait ça au tonneau, c'est à la française. Là. Donc en fait, vous prenez un grand tonneau, vous mettez du fer dedans avec des choses auxquelles vous ne pouvez pas mettre les doigts, et vous sortez l'hydrogène. Donc en fait, au-dessus de votre tonneau, là, il sort de l'hydrogène, vous le mettez dans une enveloppe, l'enveloppe se gonfle, et puis à un moment donné, vous pouvez faire du ballon. Et en fait, ces ballons ont été lancés par les Français, vous voyez, 1783, là, ont permis tout de suite d'aller très loin. D'ailleurs, ce qui est amusant, quand on lit d'ailleurs la littérature là-dessus, c'est que quand ils ont atterri à quelques kilomètres de Paris, les pauvres gars qui ont été dedans ont failli se faire trucider par les locaux, qui pensaient que le diable avait envoyé un truc qui venait du ciel, parce que c'est vrai que c'était pas évident. Et donc le roi a dû diffuser la nouvelle partout, qu'on faisait des essais avec des trucs qui pouvaient voler. C'était pas intuitif. Alors, déjà à l'époque, en fait, quand vous regardez la chronologie, ils ont volé en juin 1783, mais pas avec l'hydrogène, avec un gaz plus léger, mais pas fait avec l'hydrogène. En août, ils ont commencé à faire l'hydrogène, et en décembre, ils ont volé. Ça, c'est la chronologie officielle. Et si vous regardez, en fait, les détails, vous voyez qu'entre les deux, le 26 novembre déjà, il y a quelqu'un qui est venu voir si tout se passait bien, avec une torche, et ils ont failli volatiliser tout le système. D'accord ? Parce qu'évidemment, l'hydrogène ne pouvait pas jouer à ça. Donc, en fait, l'histoire de l'hydrogène, dès le début, dès le premier mois, la sécurité est devenue un problème. Alors pourquoi c'est un problème ? L'hydrogène, c'est la molécule la plus petite qu'on ait à notre disposition, donc elle passe à travers tout. Ça fuit tout le temps. D'accord ? Le test le plus classique, c'est ce que racontent les gens de Renault, c'est de s'être intéressé, par exemple, à qu'est-ce qui se passe si on met une voiture à hydrogène dans le sous-sol d'un immeuble. Donc c'est ce qu'ils ont fait, ils ont mis une voiture à hydrogène dans le sous-sol d'un immeuble. Quand ils sont venus une semaine plus tard, il n'y avait plus d'hydrogène dans le sous-sol. Par contre, dans les appartements au-dessus, il y en avait beaucoup. Et donc, du coup, et parce que ça passe partout. Donc, du coup, il ne fallait pas fumer dans ces appartements-là. Donc, ça fuit. Après, un combustionniste vous dira que quand vous avez de l'hydrogène, vous n'avez pas à vous poser beaucoup de questions, ça va s'allumer. Il y a beaucoup de gaz qui ne s'allument pas. Si vous avez du gaz naturel chez vous, vous faites votre cuisine. Si le gaz naturel fuit, vous ne faites pas de bêtises, vous ouvrez les fenêtres, ça va bien se passer. Avec l'hydrogène, la probabilité que ça s'allume pas avant que vous ayez ouvert les fenêtres est pas très grande. En plus, quand ça brûle très 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 vite. Je vais montrer des vitesses, mais typiquement, l'ordre de grandeur, c'est 10 fois plus vite. La vitesse de flamme, c'est-à-dire la vitesse à laquelle la combustion se produit, est 10 fois plus élevée pour l'hydrogène que pour le méthane, par exemple. Et ça fait des explosions, et je vais vous expliquer ce que c'est les explosions dans quelques minutes. Alors, on est obligé de parler de sécurité, parce que ouais, on peut faire des plans, et avec Marc, on peut faire tous les plans que vous voulez. Si demain matin, il y a une mère de famille qui meurt dans une explosion d'hydrogène avec ses 3 enfants, Monsieur Macron dira, on arrête l'hydrogène. D'accord ? Donc, en fait, la sécurité devient un point de passage qu'on ne peut pas éviter. Et les combustionnistes sont nerveux, d'accord, quand on parle de sécurité d'hydrogène. Alors, c'est là qu'il faut un petit peu réfléchir à la sociologie. Moi, j'ai rencontré aussi des avocats il n'y a pas longtemps, parce qu'un des problèmes, c'est s'il y a des accidents, qui sera responsable ? Et donc, pour nous qui connaissons un peu l'hydrogène, on est moyennement rassurés. Alors, on l'a déjà vu, hein, il y a déjà des centaines de milliers de tonnes utilisées tous les jours dans l'industrie pour l'hydrogène. Donc, on peut l'utiliser de façon safe. Mais il ne faut pas oublier que c'est utilisé par l'industrie, dans des domaines particuliers, par des professionnels, et pas par vous et moi dans la rue. Hein. C'est même utilisé dans l'aéronautique. L'exemple classique qui est toujours cité, c'est de dire on fait bien Ariane 5 qui marche à l'hydrogène, pourquoi on ne ferait pas un Airbus ? Alors, quand on compare un Ariane 5 et un moteur d'Ariane 5 et un Airbus, il y a en effet des analogies, mais les points qu'il faut surtout quand même noter, c'est que quand vous faites le plein d'un Airbus, si vous faites ça en quelques minutes, ben vous mettez du kérosène dedans. Pour faire le plein d'un Ariane 5, c'est plus de 4 heures, avec des gens qui font très attention à ce qu'ils font, parce qu'il y a un nuage d'hydrogène autour qui se forme. Enfin là, je peux dire, il n'y a pas de fumeur sur la base. Et donc on ne peut pas attendre 4 heures pour faire plein d'un Airbus. Et puis aussi, il ne faut pas oublier qu'un Ariane 5, ça vole 300 secondes. Enfin, c'est à 100 secondes là pour le moteur, 40 ans pour un Airbus. Donc en fait, on n'est pas du tout dans le même type d'outils, même si c'est le même carburant. Ce qui veut dire qu'en fait, même si on pense que, bien sûr, on a fait voler des fusées à l'hydrogène, on a même fait voler des avions à l'hydrogène déjà, mais de là à rendre ça commercial, en particulier à le sortir du domaine industriel pour l'amener dans le domaine du transport, c'est compliqué. Alors, ce que je vous dis là, c'est vrai pour les avions, mais bien sûr, par déduction, vous allez juste comprendre que c'est vrai aussi pour votre chauffage, pour les voitures, pour vos barbecues, pour les machines à café, un peu partout. Alors, je voudrais juste là revenir aussi sur une analogie qu'on entend très souvent, qui est de dire, bon, les industriels ont l'hydrogène, donc c'est pas dangereux. Alors, moi j'ai une analogie là-dessus qui vient de chez moi, en fait, c'est la même chose avec les animaux à quatre pattes. Donc vous voyez, là c'est un chat, tout le monde en a, enfin pas tout le monde, beaucoup de gens en ont chez eux. Et vous voyez, il y a des chats dans votre maison, et ça c'est pas dangereux. Et il y a aussi des tigres dans les zoos, et c'est pas dangereux non plus. D'accord ? Et puis en plus, ils ont le même look, hein, ils ont tous les deux les pattes qui pendent, ils ont que deux oreilles, quatre pattes, enfin bon, ça a l'air vraiment pareil. C'est comme le méthane et l'hydrogène, d'accord ? Le méthane, c'est ça, l'hydrogène, c'est ça. Est-ce que pour autant, vous avez envie de ça ? Moi, personnellement, je suis pas sûr, d'accord ? Parce que c'est bien ça dont on est en train de parler. On est en train de dire, on va sortir le tigre du zoo et on va l'installer chez tout le monde. Alors, il faut réfléchir à quelle laisse vous allez lui mettre, comment vous allez le nourrir. Enfin, quand il n'est pas content, comment vous allez lui dire de se calmer. Enfin, bon, c'est pas si simple. Donc, il y a une vraie question sur la généralisation de l'hydrogène. Indépendamment de toutes les autres questions, il y a une vraie question pour sortir l'hydrogène du monde dans lequel il se trouve aujourd'hui, qui est un monde très contrôlé. Alors, il y a beaucoup d'idées aussi sur l'hydrogène que les gens utilisent pour essayer de dire, bon, c'est pas dangereux. Alors, une des idées, c'est l'hydrogène est léger, alors c'est vrai, hein, donc il va monter. Si vous avez une fuite d'hydrogène, ça monte. Et donc, du coup, si ça monte, ben, c'est pas grave. Ah, sauf que, bon, d'abord, ça peut monter dans certains cas, par exemple, que vous faites des trains à hydrogène, en effet, vous mettez le réservoir sur le toit, et donc l'hydrogène monte, sauf dans les tunnels. C'est pour ça que tous les trains à hydrogène, par exemple, il y en a dans les pays plats, mais il n'y en a pas en Italie, hein, là où il y a beaucoup de tunnels, on n'a pas de train à hydrogène. Hein, vous allez voir tout à l'heure pourquoi, d'ailleurs. Et puis il y a des cas où l'hydrogène donc, peut rester coincé, dans une gare, par exemple. Et donc, du coup, une fois qu'il y a beaucoup d'hydrogène dans un endroit avec de l'air, il suffit qu'il y ait un allumage pour avoir un problème, quoi. Et puis il y a des places qui ne sont pas ventilées de toute façon. Donc en fait, ce n'est pas toujours sûr que l'hydrogène va monter. L'autre idée qui arrive et qui vient des gens qui font des gaz classiques comme du méthane, c'est de dire qu'il pourrait y avoir une fuite et ça ne s'allume pas. Bon, avec l'hydrogène, non, vous êtes tranquille. Pour vous donner un ordre d'idée, l'électricité statique, on a tous, vous savez, quand vous touchez parfois quelque chose, bon, si vous avez de l'hydrogène dans cette pièce, l'électricité statique de toucher un meuble ou un bout de plastique suffit à allumer. D'accord ? Donc il n'y a pas besoin de sortir une étincelle, ça va s'allumer très très bien. Et donc l'hydrogène est bien connu pour ça. Hein, donc, et en fait, quand vous allez discuter avec les gens qui font les réglementations, de toute façon ils vont vous dire non, on va partir du principe que ça s'allume. Tout le monde ne dit pas ça. On a travaillé par exemple avec des gens qui font des trains en France qui partaient du principe qu'il n'y aurait pas de fuite. Et donc ça ne s'allumerait pas. On leur a dit non, mais on va reprendre depuis le début, il va y avoir des fuites et ça va s'allumer. Et si vous voulez certifier tout ça, il va falloir s'en occuper. Ce qui est amusant d'ailleurs, c'est que malgré tout, les trains, ils roulent déjà. Il y a déjà des trains à hydrogène. Il n'y a pas encore eu d'accident. Alors, cette histoire d'accident lié à l'hydrogène, il y en a déjà eu. Hein. Ça fait pas longtemps qu'on le déploie, mais on a déjà des exemples. Ça, c'est la Norvège en 2019, hein, une station-service. Donc ici vous avez des modules qui permettaient de comprimer l'hydrogène à 900 bars. On sait ce qui s'est passé maintenant. Il y avait un tout petit défaut sur le couple de serrage des joints, parce que des joints qui tiennent 900 bars, c'est pas, vous l'achetez pas chez Castorama, quoi, hein, d'accord. Le gars qui l'avait serré l'avait pas mis tout à fait au bon couple, et 6 mois plus tard, ça commençait à fuir. Et une fois que ça fuit, ça s'allume tout seul, et donc on se résulte là. Il y a eu la même chose en Californie, sur un site de transport d'hydrogène par des camions. Pareil, il y a une petite fuite à un endroit, et une fois qu'il y a une fuite d'hydrogène, c'est mort. Donc du coup, une des questions importantes, c'est si on a de l'hydrogène et qu'il y a une fuite, pour une raison ou pour une autre, et c'est uniquement à prendre de probabilité, si vous avez une probabilité de fuite de 10 puissance moins 8, mais vous avez de l'hydrogène partout, au bout d'un moment, vous pouvez être tranquille que vous allez avoir un problème. Donc comment on fait pour étudier ça? Alors là, c'est compliqué, et nous, les combustionnistes, on n'est pas très à l'aise, parce qu'on ne comprend pas tout. Je vais vous montrer des exemples, vous allez voir pourquoi on ne comprend pas tout. Une des choses qu'on fait, déjà, c'est que quand vous faites des expérimentations avec l'hydrogène sur des explosions, par exemple, c'est compliqué, parce qu'à chaque fois que vous faites la manip, vous la cassez. Donc, c'est pas facile d'en faire beaucoup par jour. Donc on a tendance à remplacer ça aujourd'hui par ce qu'on appelle des simulations sur ordinateur. On avait tous entendu parler de ça, mais nous on préfère faire des simulations, évidemment c'est moins dangereux, ça tue moins d'étudiants et c'est moins cher. Alors par contre il faut faire des codes de simulation, alors c'est pas le sujet d'aujourd'hui, je vais juste montrer un exemple, hein. Comment on fait, en fait nous on a pris des codes de simulation qui viennent du monde, tout comme toujours Toulouse, hein, de l'aérospace, hein. On a beaucoup de codes qui permettent de calculer des moteurs. Et on utilise ces codes sur des machines de calcul qui sont des monstres, hein. C'est plusieurs millions de processeurs. Donc dans votre PC, il y en a un ou quatre des fois, ça dépend. Là, il y en a un million par exemple. C'est la douloureuse, c'est à peu près 100 euros par machine. Et l'électricité, c'est 20 millions d'euros à peu près par an. Donc vous imaginez, le gars, tous les mois, il paye 2 millions d'euros de facture à EDF. Ce sont des monstres. C'est avec ces monstres-là qu'on est capable, par exemple, de calculer l'écoulement dans un moteur. Là, vous voyez un moteur d'avion, hein, on calcule tout, d'un bout à l'autre. Hein. Alors c'est une opération qui dure des mois, mais qui est quand même plus facile que de construire le moteur. Et de la même façon, on peut calculer des flammes. Alors, je vais vous expliquer tout à l'heure ce que vous voyez, mais en gros, ça, c'est une flamme qui se propage hein, dans un bâtiment, par exemple, et qui accélère, et on va revenir là-dessus. Et ça, ça peut aussi être simulé. Et c'est une grosse tendance actuellement pour la sécurité d'essayer de ne pas faire des manips, si on peut, parce que c'est quand même évidemment très cher et très dangereux. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on fait de la sécurité? On part toujours du même principe. Vous avez un réservoir. Ça peut être le réservoir lui-même de l'avion, ça peut être un câble, un tuyau qui connecte le réservoir à autre chose, ça peut être un camion, ça peut être n'importe quoi. N'importe quoi ici où il y aura l'hydrogène. Cet hydrogène, très probablement, il va être sous pression. S'il est liquide, de toute façon, il va se vaporiser, il va aussi être sous pression, et puis s'il est dans un réservoir à haute pression, il sera à haute pression, très haute pression. Donc il va fuir à travers le trou. Le trou, ça peut être quelqu'un qui aura mis un coup de pelleteuse là où il n'aurait pas dû, ou ça peut être une usure, ou ça peut être un accident, ça peut être une contrainte, ça peut être n'importe quoi. En tout cas, à un moment donné, il y a un trou. Alors qu'est-ce qui se passe? Alors là, la première chose, c'est que comme vous avez ici beaucoup de pression, vous allez donc avoir ici un G. Hein. Comme vous, si vous avez une rupture de tuyau chez vous, quoi, vous arrosez, vous retrouvez avec un grand jet d'eau, là, ce sera un grand jet d'hydrogène. Ce jet d'hydrogène, comme la pression est très élevée, c'est un animal très particulier qu'on appelle un jet sous-détendu, qui a un système d'ondes de choc très compliqué, mais le nombre que vous pouvez retenir ici, quand même, c'est qu'à peu près, l'écoulement ici va sortir à 1300 mètres par seconde. Donc, ça va sortir vite. Donc il n'y aura pas besoin d'attendre longtemps pour qu'il y ait beaucoup d'hydrogène dans la pièce. Cet écoulement est très compliqué parce qu'il y a des chocs qui interagissent avec la forme du jet, enfin peu importe pour l'instant. Le résultat net, c'est celui-là. C'est qu'en fait, si ce jet s'allume, et il y a beaucoup de cas, il va s'auto-allumer, vous allez avoir une grande flamme, une espèce de torche, je vais vous en montrer une dans quelques instants, qui va pouvoir faire 2 mètres jusqu'à 20 mètres de haut. Et elle est la plupart du temps invisible. Ce que les pompiers aiment bien, d'ailleurs. Alors, elle est invisible, mais si vous la traversez, vous vous en rendez compte. Hein. Donc, les pompiers s'équipent actuellement de caméras infrarouges. Il faut un gars qui ait la caméra, qui détecte la chaleur, cette fois, pour dire aux autres où est la flamme. Autant vous dire que, quand ils interviennent sur une voiture à hydrogène, ils sont pas très rassurés. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils font ce genre de vidéo. Vous allez voir là, ils comparent ici deux feux. Ils ont mis dans une voiture du carburant normal, donc vous allez voir ce qu'on appelle un feu habituel de voiture, donc c'est des flammes un peu comme votre feu de cheminée, et ils ont mis aussi dans la voiture des bouteilles, une bouteille d'hydrogène qui vont ouvrir à un moment donné, qui est à plusieurs centaines de bars, et vous allez voir la différence qu'il y a entre les deux types de flammes. Donc là, ils allument, vous voyez ici les flammes habituelles qu'on voit sortir d'un véhicule en feu, et vous allez voir, là vous avez la caméra infrarouge, et là ils ouvrent la bouteille d'hydrogène maintenant. Et vous voyez que c'est pas du tout la même topologie. Pourquoi? Parce que ça sort très très vite, quoi. Ça sort à 1000 mètres seconde. Donc en fait, ici, si vous avez... Alors celle-là, on la voit, parce que ce que vous voyez, c'est les sièges et le toit qui sont en train de brûler. Hein. Mais si c'était une flamme d'hydrogène pur, vous ne la verriez même pas. Donc en fait, déjà du point de vue sécurité, là, c'est un tout petit trou. Le trou qui est à la base fait quelques millimètres. S'il faisait 10 cm, au lieu de faire 2 mètres de haut, elle ferait 20 mètres de haut, cette flamme. Donc imaginez une flamme de 20 mètres de haut, quoi qu'il y ait devant, vous pouvez oublier. Quoi. C'est un chalumeau géant. Alors, il y a beaucoup de cas où on va faire exprès de faire ça. Alors pourquoi? Si vous avez un réservoir à 20 Kelvin ici, donc moins 250 degrés, il est à pression atmosphérique, c'est pour ça qu'on a fait ça. Il est à basse pression, normal, il n'y a pas besoin de le comprimer, mais il est très très froid. Si jamais il se réchauffe, parce que par exemple vous avez une isolation qui commence à flancher, il va commencer à chauffer, donc il va commencer à bouillir, et la pression va monter. Vous ne pouvez pas laisser ce réservoir monter en pression, parce que sinon il va exploser. Donc qu'est-ce que vous faites? Vous faites ce qu'on appelle du venting, c'est-à-dire vous ouvrez un trou pour que le gaz qui sort, c'est une cocotte minute. Vous avez tous fait une cocotte minute, ça se met à siffler là. Bon ben là, vous faites pareil. Quand la pression est trop élevée de la cocotte minute, vous ouvrez un petit trou et ça sort. Donc vous vous retrouvez avec ce qu'on appelle un sillage d'hydrogène derrière l'avion. Ou alors, vous vous retrouvez avec une flamme derrière l'avion. Alors en France, on n'aime pas trop bien ça, les flammes accrochées derrière les avions. Hein. C'est pas une bonne idée. Et on ne sait pas trop aujourd'hui prévoir si on aura ça ou ça. Alors pourquoi ça s'allumerait? Bah parce que là, il y a des gaz chauds qui sortent du moteur. Hein. Donc, on ne sait pas. Et bon, Airbus est conscient de ça. Chez Airbus, par exemple, Le petit tuyau que vous voyez là, la queue de l'avion, c'est justement le vent du réservoir qui laisserait sortir l'hydrogène derrière, et le plus loin possible de l'avion, pour qu'il ne s'allume pas. Normalement. Vous imaginez la tête du pilote quand il téléphonera en disant « j'ai un truc qui me suit ». Enfin bon, c'est pas des... Mais ça, c'est la solution facile, parce qu'en fait, ça, c'est la solution où vous avez une flamme d'hydrogène qui est accrochée à un endroit où vous avez choisi qu'elle soit. Mais en fait, si vous avez une rupture de quelque chose dans un moteur, elle ne va pas forcément se produire là où vous voulez. Vous pourriez casser un tuyau à l'intérieur du compartiment moteur. Ou dans un train, vous pourriez avoir une fuite qui n'est pas forcément sur le toit, parce que les moteurs ne sont pas sur le toit. Donc en fait, vous pouvez vous retrouver à avoir des fuites d'hydrogène n'importe où. Et ces fuites peuvent s'allumer. Et on a beaucoup d'études actuellement, nous, avec les motoristes et tout, à dire, voilà, s'il y a une flamme qui s'allume là, ben, qu'est-ce qui se passe ? Combien de temps il faut que ça fasse un trou ? Est-ce que ça fera un trou ? Est-ce qu'on peut éteindre le... Alors, évidemment, on va éteindre l'hydrogène très vite. Hein. On a des détecteurs. La question, c'est pendant le temps qu'on éteint, est-ce que le moteur aura eu un problème, etc. Et puis, il y a des choses encore plus compliquées. C'est que si vous avez des fuites... Alors, outre le fait qu'il faut installer 5 EPR à Roissy pour alimenter Roissy, si vous avez plein d'avions à hydrogène sur un tarmac ici, et qu'il y en a 2 ou 3 qui fuient, qui lâchent de l'hydrogène qui monte, et au-dessus, vous avez des avions qui décollent, les combustionnistes disent « Moi, je retire toute responsabilité sur ce problème. » Ou alors dans une gare, pareil, hein, si vous dégazez l'hydrogène à l'intérieur d'un volume fermé, à l'intérieur d'une gare, ou dans un tunnel, là, c'est le pire du pire, vous pouvez avoir des soucis. Alors, ça, c'est des soucis qui ne sont pas des vrais soucis. Maintenant, je vais vous montrer le vrai souci. Le vrai souci, c'est si ça ne s'allume pas. Si ça ne s'allume pas, vous allez avoir, par exemple dans cette pièce, quelqu'un a ouvert une bouteille d'hydrogène, c'est pas allumé, donc que fait l'hydrogène ? Ben, il débite et il remplit doucement la pièce en se mélangeant avec l'air. Donc en fait, on se retrouve avec de l'air et de l'hydrogène qui se mélangent, mais en fait, comme je l'ai dit, comme il faut très peu d'énergie pour l'allumer, à un moment donné, quelqu'un va fermer une porte, appuyer sur un interrupteur électrique, ou même avoir un peu d'électricité statique, et là vous allez avoir allumage. Et là vous avez ce qu'on appelle... une explosion. Alors, je vais faire un tout petit peu d'ailleurs de sémantique là-dessus, parce que les journalistes ont fait un problème avec les explosions. Alors, les explosions, vous en avez 2 grandes catégories. Les déflagrations et les détonations. Et évidemment, les journalistes n'ont jamais compris la différence entre les deux, donc je vais essayer de vous expliquer aujourd'hui. Les déflagrations, c'est pas bon, mais c'est pas trop trop mauvais quand même. Les détonations, c'est très très mauvais. Alors, je vais vous montrer la différence. Là, je vais montrer une déflagration. On a baissé un petit peu le son, donc ça ne devrait pas être trop violent. Ça, c'est ce que font les compagnies. Ça, c'est la Lloyd, en fait. C'est pas l'hydrogène, ça. Ça, c'est du méthane. C'est pour reconstituer des accidents. Typiquement, quand il y a une fuite, vous en avez, il n'y a pas longtemps à Paris, hein, vous avez une fuite de méthane dans un bâtiment, et puis boum, ça fait une flamme. Alors là, en fait, vous avez à l'intérieur de ce pseudo-bâtiment là, un mélange de méthane et d'air, qui est confiné par juste un film en plastique, et on va allumer un bout, et vous allez voir ce qu'on appelle une déflagration. Alors, les combustionnistes appellent ça une flamme très très gentille, parce que tous les gens qui sont là sont morts, mais personne d'autre n'est mort. En particulier le bâtiment, vous voyez le bâtiment qui est là ? Il est toujours là. Pourquoi ? Parce que cette flamme qui est là, elle a fait une surpression très très faible. La pression... à l'intérieur de cette boîte est passé de 1 bar à 1,05 bar. 1,02 peut-être. Et n'importe quel bâtiment, le bâtiment où on est là pour l'instant, peut soutenir une surpression comme ça. Pas beaucoup plus. Hein. Parce que une différence de pression à l'extérieur du mur, ici, il y a 1 bar. À l'intérieur, s'il y a 1,02, vous calculez la force par mètre carré, ça fait quand même tout de suite des centaines de kilos. Quand on est par exemple à 1,05 bar, ça veut dire que sur ce mur-là, s'exerceraient des dizaines de tonnes. Il peut encore tenir. Normalement, il tient. Donc, ça veut dire que, par exemple, si vous êtes dans un bâtiment, vous avez une déflagration. L'endroit où la déflagration passe, tout le monde est mort. La flamme est à 2000 degrés. Hein. Mais le bâtiment, lui, résiste. Donc, c'est une petite catastrophe. Là, je vous montrais une grosse catastrophe. Donc, ça ressemble, mais ce n'est pas tout à fait pareil. Il y a un tout petit peu plus de carburant. Et là, on a une détonation. Vous allez entendre la différence aussi. Donc là, on n'est pas du tout dans le même domaine, on a un boom. La grosse différence entre une déflagration et une détonation, c'est boom. Si vous n'entendez pas les choses, c'est que ce n'est pas une détonation. C'est pour ça que quand on vous dit qu'il y a eu une énorme déflagration, ben, les gens ont entendu une énorme déflagration. Non, s'ils l'ont entendu, c'est que c'était une détonation. La pression est montée cette fois à 100 bars, 150 bars. Donc autant vous dire que là, 150 bars dans ce bâtiment, il n'y a plus de bâtiment. Hein. De toute façon, il n'y a plus de Collège de France. Hein. Et donc là, on a une catastrophe d'un autre ordre. D'accord ? Donc on peut, par exemple, imaginer que si vous avez un avion à l'hydrogène, que vous ayez une fuite dans un moteur, si vous avez une déflagration, c'est-à-dire que le moteur va prendre feu. Vous activez les systèmes pour éteindre le feu, ça va bien. Si vous avez une détonation dans le moteur explose, il fait une détonation, mais l'avion explose aussi. L'onde de choc volatilise l'avion. D'accord ? Donc en fait, on ne peut pas avoir de détonation dans un avion. D'ailleurs, nous qui travaillons pour Airbus, le mot détonation n'existe pas chez Airbus. Ça ne peut pas arriver. C'est un mot, c'est comme lapin sur un bateau, ça ne peut pas arriver. Donc en fait, les détonations ne sont pas acceptables. Par contre, vous avez vu que les deux choses que je vous ai montrées, entre la déflagration et la détonation, dans les deux cas, c'était une espèce de tube qu'on allume à un bout. Et le problème, c'est que les déflagrations peuvent devenir des détonations.
Oui. La différence entre les deux manies, qu'est-ce qui s'est passé?
La seule différence, c'est que sur la détonation, au début, il y a un mur autour pendant 2 mètres. C'est-à-dire qu'on empêche la flamme de partir dans toutes les directions, on la focalise. Et ça lui suffit pour partir en déto. Justement, ce problème maintenant, quand est-ce qu'une déflagration peut devenir une détonation, devient un problème essentiel. Est-ce qu'on est capable de le prévoir? Parce qu'on peut vivre avec des déflagrations, on ne peut pas vivre avec des détos. Alors, on fait des calculs, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Ça, c'est un calcul de déflagration dans une boîte qui ressemble à un bâtiment. C'est un bâtiment de laboratoire, hein. C'est-à-dire c'est un parallépipède avec des obstacles dedans. Ça pourrait être des chaises ou des armoires. Et vous voyez la flamme, en fait, ici qui commence, c'est la zone rouge. Donc, à l'intérieur, il fait très très chaud. Devant, il fait froid. Et la flamme souffle les gaz qui sont devant elle. C'est l'effet de souffle, hein, que vous avez déjà entendu probablement. Et au fur et à mesure qu'elle se propage, elle devient de plus en plus rapide. Mais là, ça reste une déflagration. Donc maintenant, je vais vous montrer une détonation. Et vous allez voir, vous comprendrez pourquoi on n'est pas à l'aise pour les prévoir. Donc là, vous prenez pareil, c'est un tube. L'exemple le plus classique, c'est les tubes que vous avez dans les mines, hein, les galeries de mines. C'est vraiment l'endroit où on a étudié ça le plus. Hein. Donc c'est une mine, vous avez... À l'intérieur de la mine, ici, du gaz qui est produit, dans une mine, il n'y a pas que du charbon, hein, il y a aussi du méthane, de l'hydrogène, en fait, tout un tas de trucs pas sympathiques. Et ben donc, on fait une manip, là, ça va être un calcul, on met là-dedans un gaz combustible, on l'allume ici, vous allez voir, et on va voir une flamme avancer. Et vous allez voir que cette flamme, au début, ça va être une déflagration et elle va devenir une détonation. Alors, on va voyager, ce tube est très très long, hein. Bon, comme dans une mine, hein, il peut faire des dizaines de mètres, des centaines de mètres de long. On va voyager avec la flamme pour que vous voyez ce qu'elle devient. Et vous allez voir, plus on avance vite, plus la flamme avance vite, puisqu'on est accroché à la flamme. On va regarder la position de la flamme et la pression. Alors bon, peu importe pour l'instant, allons-y. Donc vous avez ici, la flamme quand elle commence, c'est une déflagration, c'est une flamme gentille. La pression est presque constante. Et tant que ça se passe comme ça, c'est pas trop mal. Malgré tout, n'oubliez pas qu'il fait quand même 2500 degrés ici et 300 degrés devant. Mais pour l'instant, c'est une flamme relativement gentille qui avance assez doucement. Un petit peu plus tard, vous voyez, elle a commencé à devenir beaucoup plus plissée, elle est beaucoup plus tordue dans tous les sens. Et là, elle avance déjà beaucoup plus vite. Vous voyez, comme on voit défiler les obstacles, là, et la pression commence à être agitée. Et vous voyez aussi une autre chose, c'est que la flamme est ici. Et devant elle, elle pousse une onde acoustique. Elle fait du bruit, si vous voulez. C'est la même analogie que vous auriez pour un avion de chasse. Vous savez, devant un avion, il y a une onde de choc. Quand l'avion devient sonique, encore plus supersonique, il rattrape le bruit qu'il fait, et on a le fameux bang sonique. Bon, là, ça va être la même chose. Quand la flamme, ici, qui est là, si elle arrive à rattraper l'onde acoustique qui est devant, on passe en détonation. C'est ce qui va se passer dans le film suivant. Alors, regardez bien, ça va vite. Attention, on est parti. Hop. Donc là, vous voyez la flamme, elle est toujours derrière l'onde acoustique, mais à un moment donné, il va se passer quelque chose au niveau de cet obstacle. Vous voyez, clac, clac, et boum. Maintenant, elles sont synchro. Et le front que vous voyez là, maintenant, il avance à peu près à 2 km par seconde. Et une fois qu'on en est là, c'est fini. Et on sait que si on enlève les obstacles que vous voyez là, ce mécanisme ne se produit pas, ou beaucoup plus tard. Donc on sait que, par exemple, dans un bâtiment, le point critique, c'est les obstacles. C'est beaucoup plus raisonnable d'avoir des bâtiments vides en termes de combustion. Évidemment, vous allez me dire, si vous avez un bâtiment vide, à quoi ça sert? Mais chaque fois que vous mettez une chaise, une armoire, vous encouragez ce type de choses. Et une fois qu'on a dit ça, ça aide pas beaucoup les gens, parce que des bâtiments vides ou des moteurs d'avion vides, ça marche pas, quoi. Donc en fait, on voit qu'il y a un problème de fond sur la sécurité hydrogène aujourd'hui, qui est que la communauté combustion, on leur demande de répondre à la question que je viens de vous montrer. Là, je vous ai montré une géométrie qui est une géométrie académique, mais quand on bosse pour les trains ou les avions, les gens viennent nous voir avec la conception d'un moteur ou d'un système de carburant, et ils nous disent, est-ce que c'est safe ou pas? Et nous, on est là, s'il n'y a pas de transition à la détonation, oui, à peu près. S'il y a une transition à la détonation, non. Et nous ne savons pas vous dire s'il y aura une transition à la détonation, parce que ça dépend complètement du carburant, de la forme, ça dépend s'il y a des virages, ça dépend s'il y a des obstacles, ça dépend de beaucoup, beaucoup de choses. Et donc la question de base qui est-ce que c'est safe? Nous, aujourd'hui, on ne sait pas vraiment donner une réponse affirmative. Et c'est pas tellement étonnant, hein, la communauté combustion travaille là-dessus depuis 70 ans, je ne vous en ai pas parlé, mais ce sujet de la transition à la détonation, il est lié aux bombes, évidemment. Hein. Parce que quand vous faites des bombes, vous voulez aller tout de suite à la détonation. Donc les combustionnistes, ils savent très bien faire un système qui va aller tout de suite à la détonation. Mais c'est l'inverse de ce qu'on veut. Alors vous pourriez dire, du coup, vous sauriez faire l'inverse. Non, on sait faire détonner, mais on ne sait pas empêcher de détonner. Et on sait, par exemple, que si, il y a une bonne façon, c'est de ne pas prendre d'hydrogène. Le méthane, par exemple, avant de faire détonner du méthane, il faut vraiment y aller, quoi. Mais l'hydrogène, lui, par contre, il n'y a vraiment pas besoin de le forcer, il y va tout seul. Voilà, donc pour conclure, c'est évident qu'on va avoir plus d'hydrogène qu'aujourd'hui. On n'en aura peut-être pas autant que ce que les gens voudraient. Marc a bien montré que, de toute façon, il n'y en a pas. Il n'a pas donné les chiffres, hein, il a dû vous le donner la fois d'avant, mais aujourd'hui, 99% de l'hydrogène, c'est fait avec du méthane, donc ça ne sert à rien en termes de CO2. Quoi. Et comme ça multiplie les rendements, c'est débile. Autant brûler directement du pétrole. Donc, mais si on suppose que l'hydrogène, on arrive à le produire d'une façon grise ou verte, on va en trouver dans pas mal d'endroits. Donc il y en aura. De là à dire qu'on s'en servira pour les transports, vous avez compris que moi, je pense que peut-être les voitures, les avions, il y a une grosse polémique pour l'instant là-dessus. Je pense qu'Airbus s'est engagé à faire des avions à hydrogène, donc je pense qu'on va avoir des protos, hein, c'est sûr. De là à dire que vous irez en vacances en avion à hydrogène, je sais pas. C'est pas évident, entre autres parce que pour les avions, non seulement on va devoir refaire les moteurs, mais on va devoir refaire tout l'avion, et en fait, on va devoir refaire tout l'aéroport. D'accord? Parce que il faut amener, vous imaginez, amener de l'hydrogène liquide dans un avion. La chose qui est compliquée à comprendre avec l'hydrogène à 20 Kelvin, c'est qu'à 20 Kelvin, tout est liquide, ou solide même. L'oxygène, l'azote. Et donc en fait, par exemple, le tuyau dans lequel vous allez faire voyager l'hydrogène liquide, il faut le purger avant pour enlever tout ce qui pourrait bloquer, par exemple, de l'air. Donc il faut le purger avec autre chose, mais comme les parois sont froides, ça va geler sur les bords. Enfin, et évidemment, s'il y a la moindre fuite, comme vous l'avez compris, la moindre fuite à l'hydrogène pourra nous emmener là où on ne veut pas. Donc en fait, Airbus travaille là-dessus. Airbus travaille avec l'aéroport de Paris, avec les pétroliers, avec Air Liquide. Ils envisagent tout le scénario complet, hein, de l'avion à hydrogène. Mais l'accumulation des difficultés est telle que... je pense qu'aujourd'hui, le cas est ouvert. Quoi. Et donc, surtout, même s'il n'y a pas d'avion à hydrogène, il y aura des voitures à hydrogène, il y aura des camions à hydrogène, il y aura de l'hydrogène dans l'industrie, on va en avoir de plus en plus. Et donc, la sécurité va devenir un sujet encore plus prégnant. Tant qu'on reste dans l'industrie, je pense que c'est quelque chose qu'on pourra maîtriser. De là à penser que, comme on le fait déjà pour l'instant, hein, dans une voiture à hydrogène, en Allemagne, il y a des stations, n'importe qui, votre enfant de 18 ans, peut aller là-bas et brancher sur sa voiture à hydrogène un truc qui délivre 900 bars pour remplir un réservoir à 700 bars. Moi, perso, je ne le ferais pas. Quoi. Rendre un système comme ça étanche, je ne sais pas si vous vous rendez compte, pour le grand public, c'est comme très compliqué. S'il y a de la poussière, le moindre truc qui se coince dans le... Alors, il y a des sécurités. Hein, vous ne branchez pas ça comme votre essence. Vous ne mettez pas un tube dans un trou. Hein. Il y a un système de sécurité qui rentre, qui se verrouille. Mais bon, à nouveau, même si la probabilité d'échec est que 10-7 ou 10-8, on a déjà vu hein, que en Suède, en Norvège, là, que ça peut vite tourner mal. Voilà. Ben, écoutez, je vais m'arrêter là. Si vous avez des questions, je suis à votre disposition.
Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-de-france.fr.